Alors pour ce matin, toujours bien de reprendre les fondamentaux. On va relire un texte qui repose un des processus de base dans la vie chrétienne. Le texte est un peu ardu, mais on va en sortir quelque chose de simple, vous allez voir. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, et je vais lire du verset 2 à 10. Pardon. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi à la persévérance la piété à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit plus clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Alors c'est un peu dur, surtout si on n'a pas le texte sous les yeux, hein, il est concentré. On va juste voir un principe qui sous-tend ce passage et qui est important. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfin, ça commence avec ça. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'est pas ici question d'information sur Dieu, il est question de connaître Dieu. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est important de savoir des choses sur Dieu pour le connaître, pour le rencontrer, mais c'est pas la même chose. Pour venir ici, nos amis roumaines ont mis des indications sur l'adresse de l'église dans leur GPS, et donc elles avaient des informations sur l'église ici. Elles savaient que c'était une ville qui s'appelait Moutier, elles savaient que c'était le numéro 11 avec un A, rue des Oches, aucune idée ce que ça veut dire, moi non plus d'ailleurs, mais voilà. Elles avaient plein d'informations sur la vie, sur l'église, elles les ont mis dans leurs GPS. Elles sont venues ici, mais après, elles sont montées ici ce matin, elles ont vu les gens. Les informations sur Dieu, c'est ça. Comment on peut le trouver, comment on peut le rencontrer, des choses sur qui il est, c'est super. Mais si ça reste des informations sur Dieu, si elles avaient chargé ça dans le GPS et qu'elles soient restées chez elles, on ne les aurait pas rencontrés. Donc, lorsqu'il est dit ici que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur, c'est pas juste plus en savoir sur eux, c'est plus les connaître eux. Bien sûr, en utilisant ce qu'on sait sur eux, hein, mais dans le but de... Donc, c'est se connaître là. Et ce passage qui est long, on va reprendre certains éléments, se termine, enfin, en tout cas vers la fin, il y a ceci. Si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, ce que ce passage nous décrit, c'est un processus qui va de par la connaissance de Jésus-Christ à pour la connaissance de Jésus-Christ. Et hop, c'est un cercle de vie comme ça qui... Hein, rappelez-vous, tout ce que Dieu fait est vivant et tout ce que Dieu fait... se reproduit, parce que tout ce qui est vivant se reproduit, grandit, se multiplie. C'est pour ça qu'il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, pas juste ajoutées. Et on va essayer de s'arrêter un petit peu sur ce processus qui va de la connaissance de Christ à la connaissance de Christ, en produisant la vie. Comme l'a dit Sam ce matin, début d'année, on prend des résolutions, on n'en prend pas, on prend celle de pas en prendre. En fait, c'est traditionnellement un moment où on jette un coup d'œil derrière, on regarde devant, on se demande ce qu'il y aura, ce qui va arriver. Et c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je prends plus de résolutions parce que je sais que ça sert à pas grand-chose dans mon cas. Il y en a pour qui ça marche. Bien sûr, je suis pas récupérable. Mais par contre, d'avoir une vision claire, de projeter une vie intentionnelle, ça c'est important. Hein. C'est très différent. Une résolution, c'est dire je vais faire ça, je vais devenir ça, je vais plus être en retard, je vais être à l'heure, je vais lire ma Bible tous les matins. Pff, ouais, ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas très efficace. Hein. Mais par contre, avoir l'intention de connaître mieux, rencontrer plus Christ pendant cette année, ça c'est bien, c'est un bon souhait. Hein. Sachant qu'on va y arriver, des fois non, des fois oui, on va échouer, on va recommencer. Je reprends mon texte et il dit donc « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître, etc. » Le point de départ, c'est que c'est lui qui nous a donné hein, sa divine puissance. Donc c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est lui qui est venu vers nous, c'est lui qui a commencé, et c'est lui qui fournit l'énergie. Donc ça c'est bien. Nous, on n'a pas à se préoccuper de ces choses-là. C'est pas nous qui devons faire le plein d'essence de la voiture, la réparer. Non, ça c'est fourni avec le kit de démarrage. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété, c'est un mot, pas trop ce qu'il veut dire ce mot. Hein. Ou alors on l'aime pas, on comprend pas. Ou... Mais tout simplement, on pourrait résumer ça en disant notre vie partagée avec Dieu. C'est beaucoup plus... Ça a plus de sens pour nous, mais c'est ça. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, pour vivre, et à la vie avec lui. La vie dans laquelle il est invité et de laquelle il fait partie. Par elle, c'est sa divine puissance, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, c'est toujours sa divine puissance, vous deveniez participants de la nature divine. Et là, on est au cœur de ce qui fait la vie chrétienne, être participant de la nature divine. Et c'est pour ça que c'est très loin des résolutions. Les résolutions, c'est changer ce que je vais faire. Ah, je vais plus prier, je vais plus aller à la réunion, je vais plus faire ci, je vais plus être gentil, ou je vais moins me mettre en colère, je vais moins me fâcher, je vais moins être susceptible. Ça sert à pas grand-chose. Mais là, il dit, vous deveniez participant de la nature divine. Le mot qui est utilisé est un très joli mot qui veut dire avoir des choses en commun, hein. Se mélanger et partager des choses. Nos amis ont été accueillis par les gros gens et je peux supposer que ce matin, ils ont partagé le petit déjeuner. Même pas. Non, bon, tant pis. Comme je les connais un peu, voilà. Hein, il y avait de la nourriture commune, il y avait des discussions, des mots en commun autour d'une table. C'est ça. Participer à la vie divine. Elle est en nous, elle est en Dieu, c'est lui qui l'a mise en nous. Et il y a cet échange qui est là, qui se fait. Rappelez-vous, le point de départ, c'est la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis en réalisant que sa divine puissance a fourni tout ce qu'il fallait, dans le but de devenir participant de la nature divine. Donc jusque-là, en gros, c'est intéressant parce qu'il n'y a rien qui dépend de nous, il n'y a rien à faire. C'est lui qui fournit l'énergie, c'est lui qui a tout fait, donc on peut se dire, c'est super, Philippe nous souhaite une année corse. Il n'y a pas à travailler, les doigts de pied en éventail. Non, notre part arrive juste après. Même si c'est pas très très bien traduit, faites tous vos efforts. J'aime pas la traduction faites tous vos efforts. Mettez tout en action serait plus juste. Hein. Mais c'est pas faux, mais dans le sens pas effort pour se changer, mais orientez toute votre énergie. Là, ça serait un peu mieux déjà. Là, on a tous du temps dans une journée. On a tous une certaine quantité d'énergie pour faire certaines choses, mettez cette chose-là dans la bonne direction. Donc, mettez toute votre énergie pour joindre à votre foi, pour ajouter à notre foi. Mon souhait pour cette année, c'est que nous ajoutions à notre foi. Notre foi, ben, elle est là, oui, on sait que Dieu existe, on vit déjà avec lui, on le connaît, on est, je sais pas s'il y a que des croyants ce matin ici. Donc, on a la foi. Mais ce qui nous est conseillé, ce qui nous est dit ici, c'est d'ajouter, de joindre, de mélanger avec, littéralement. Donc, mettez toute votre énergie, votre intention, visez bien hein, dans ce sens-là, pour joindre à votre foi. Et là, il y a toute une liste de choses qu'on ne va pas développer ce matin, on n'aurait pas du tout le temps, hein, qui sont passionnantes, mais la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, blablabla. Ok. Et puis, lorsqu'on arrive à la fin de cette liste, il est dit, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, pourquoi s'y multiplient? Parce que tout ce qui est vivant se multiplie. Un arbre, ça fait plein de fruits et puis ça fait plein d'arbres. Les animaux, ça fait d'autres animaux. Les êtres humains, ça fait d'autres êtres humains. Tout ce qui est vivant se multiplie. Si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on pense à, ben là, c'est l'année qui est devant nous, hein, on a, je dirais, pour caricaturer, deux façons de penser. Réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Dieu? On fait un emploi du temps, on fait un programme, on fait des activités, et puis après, on va essayer de faire rentrer Dieu dedans. Et on peut même faire des super réunions de prière pour ça. Hein. On veut le faire rentrer dans nos cases. Ce que ce texte nous dit, c'est mettez pas vos efforts là-dedans, mettez vos efforts à être participants de la vie divine, et ça vous laissera pas sans rien faire. Si je prends un exemple, au lieu de se dire, bon, cette année, on va aider les pauvres, alors on va chercher des pauvres. Où c'est qu'il y a des pauvres? On va bien trouver des pauvres, il n'y en a pas beaucoup en Suisse, mais on va en trouver quelques-uns. Sinon, on ira ailleurs pour en chercher. Et puis, on va les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Hein? Ce que Dieu nous dit, c'est, viens participer à ma vie et laisse ma compassion pour ceux qui souffrent remplir ta vie. Si ton cœur est rempli de ma compassion, ça ne te laissera pas sans trouver quelqu'un qui en a besoin. Ça, c'est pas ton problème. Je vais en mettre un sur ta route. Et nous, on fait le contraire. On fait un projet pour que Dieu soit content. Alors, on va, j'ai dit aider les pauvres. Ouais, c'est une caricature, hein, mais on va faire ça. On va aller parler à ceux qui savent pas. On va aller, hein, et puis après, on dit à Dieu, viens avec nous. Et Dieu, bon, bah, il fait quand même. C'est bien, hein. Un minimum. Sinon, il se passerait rien. Mais ce qu'il aimerait dans l'idéal, c'est que ça se passe dans l'autre sens. On partage du temps avec lui, on apprend à le connaître par sa connaissance. Et ça ajoute des choses à notre foi. Hein, parce que notre foi, elle est simple au départ. On sait que Dieu existe, c'est bien. On sait qu'on était condamné, on l'est plus, c'est super. On sait que nos péchés sont pardonnés, ça nous intéresse. Alors c'est bien. Pour le reste, ben voilà, un petit peu dimanche matin, mais pas tous les dimanches, un petit peu le jeudi soir, mais tous les 15 jours, un petit peu là, là, là. Et puis après, voilà, j'essaie d'être honnête et ça suffit. Mais Dieu aimerait que ça se passe autrement. Qu'on participe à sa vie, que sa vie entre en nous, et puis quand elle est dans nous, les choses vont se présenter. Hein. Ça ne vous laissera pas sans activité ni sans fruit. C'est une affirmation. Alors c'est un défi parce que on se dit du coup, mais alors, ben, je ne sais plus trop planifier. Bah ben, si, il y a des choses qu'on doit planifier parce qu'on est dans un système de vie qui nous oblige à le faire. Hein. On va continuer de se retrouver le dimanche matin à 10h parce que si on attend que chacun ait à cœur de venir en espérant de se rencontrer, ça ne va pas se passer. Donc on ne va pas devenir des gens bizarres, hyper spirituels. On planifie des activités, c'est bien. Mais au niveau de notre vie avec Dieu, c'est pas ces choses-là qui remplissent, c'est le contraire. On participe à sa nature divine et ça fait de nous des gens qui vont tomber dans les pièges de Dieu. Vous savez, il y a cette phrase, je cite souvent, que j'aime beaucoup dans Le Petit Prince, quand le petit prince constate et dit « On devient pour toujours responsable de ce qu'on a apprivoisé. » Et souvent, on se dit, j'aurais pas dû apprivoiser telle personne ou telle situation. Parce que j'aimerais pouvoir me coucher et m'en moquer. Je peux pas. Hein. Bien sûr, le cas, peut-être un des cas les plus forts, c'est notre famille, nos enfants, si on en a. Hein. Des fois, on se dit, oh là 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 là. Mais on en est responsable. On les aime. Mais c'est pareil avec beaucoup d'autres choses. Lorsque Dieu touche nos cœurs, et place devant nous un besoin, on en devient responsable. On aurait aimé l'éviter. Parce qu'on était plus tranquille avant. C'était mieux. C'était moins de soucis. Mais ça ne nous laissera pas sans activité ni sans fruit. Lorsque Pierre, qui avait de grandes intentions pour devenir un grand chef dans le royaume de Dieu, Jésus lui explique et dit, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Quand tu étais jeune, tu décidais, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras plus âgé, un autre te ceindra et t'amènera là où tu voulais pas. C'est l'évolution que Dieu veut faire venir dans nos vies. C'est bien et c'est une bonne chose et c'est normal de se dire, ah, je vais faire des choses pour Dieu. C'est super. S'il y a au moins ça, hein, c'est un bon début. Mais on va rapidement s'apercevoir que de vouloir faire des choses pour Dieu, c'est Dieu qui veut faire des choses avec nous et qui va faire des choses en nous. Et parce que ces choses se passent en nous, alors je vais croiser quelqu'un et avant j'aurais pu passer sans le voir, ça m'aurait pas gêné, mais maintenant je peux plus. À cause de ce que Dieu a fait, je suis obligé de m'arrêter. Et je suis peut-être un peu en colère parce que j'aurais bien aimé ne pas m'arrêter, j'aurais bien aimé ne pas l'avoir, j'aurais bien aimé ne pas me sentir responsable, mais je peux plus. Parce que Dieu a travaillé en moi. Et c'est là qu'on doit mettre notre intention, notre énergie, à toujours être participant de la vie de Dieu pour ne pas passer à côté de toutes les choses que Dieu va placer devant nous. Et c'est d'ailleurs, moi je pense que notre difficulté souvent vient de là, c'est que on a tellement peur de devenir responsable de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, qu'on se tient loin. Vous savez, les gens qui ne se sont pas arrêtés dans la parabole du bon samaritain, on les critique souvent, on se moque d'eux, ils sont passés, ils ne se sont pas arrêtés. Mais je pense qu'une des raisons principales, c'était ni la méchanceté, ni un égoïsme bête, oh, c'est pas moi. Non. C'est qu'il y avait cette idée de ne pas devenir responsable. Pour le moment, c'est juste un gars dans le fossé, je peux imaginer qu'il est là parce qu'il a fait une bêtise, c'est sa faute. Si je m'arrête, si j'apprends son nom, si j'apprends son histoire, si je sais qui il est, si je découvre ce qui s'est passé, je vais me sentir responsable. J'ai pas envie. Mais en communiant avec Dieu, il fait quelque chose en moi qui fait que je vais m'arrêter pour cette personne au bord de la route. Je vais être touché, j'ai pas vraiment le choix. Ça me laissera pas sans activité ni sans fruit. Et puis, le texte continue avec deux choses encore qui sont, qui pourraient paraître négatives, hein, mais qui sont importantes. Où c'est qu'elles sont? Voilà. Où il est dit qu'il nous faut fuir. Je cherche le verset, excusez-moi. Oui, c'était plus haut. Voilà. Verset 4. Hein? Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc on doit ajouter, mais il y a aussi cette partie-là, fuir. Et puis, ce texte, encore une fois, il a été souvent mal utilisé, hein, fuir le monde. Alors, ça a pris toutes les formes qu'on pouvait imaginer, depuis la longueur des vêtements jusqu'à la longueur des cheveux, le style de musique. Toutes ces stupidités qui n'ont rien à voir avec le monde. Mais il y a une chose quand même qui est évidente, et je pense peut-être pour vous, vous l'avez, moi j'y étais particulièrement sensible dans ces périodes qu'on appelle la fin d'année, hein. C'est ce que Sylvie Germain appelle le brouhaha de ce monde. Vous savez, cette espèce de bruit de fond qui fait qu'on n'entend plus rien. C'est un petit peu comme si vous avez déjà essayé de regarder les étoiles dans une grande ville moderne. Hein, aller fêter le jour de l'an à Paris, à Genève, etc. Et puis au milieu de la nuit, essayer de regarder les étoiles. Vous voyez pas les étoiles. Pourquoi? Elles sont noyées dans les lumières artificielles. Le brouhaha de ce monde, le brouillage radio, c'est ça qu'on doit fuir. Parce que pour être activement concentré sur participer à la nature de Christ, il y a une condition. C'est de pouvoir entendre, de pouvoir voir un minimum, de pouvoir contrôler sa vie. Si vous êtes comme moi, une des choses qui me fait le plus souffrir dans ma vie spirituelle, c'est régulièrement de m'apercevoir que je viens de passer une heure, une journée, une semaine, un mois, ça peut être plus, hein, en pilotage automatique, sans penser, sans vivre chaque chose. Dans la purée, dans le brouillard. Comme tout le monde, hein? avec ça tourne au soleil, on va travailler, on va au culte, on chante, on prie, on lit la Bible, mais il n'y a rien d'intentionnel, il n'y a rien de vécu, il n'y a rien de... Je ne vois pas les étoiles, il n'y a, y a plus de communication précise, c'est juste un... Et... Pourquoi c'est appelé... Moi j'ai du mal à la trouver cette phrase dans mon texte. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parce que cette espèce de gros brouillard qui nous empêche de réfléchir, on l'aime pour une raison, c'est que c'est un anesthésiant efficace. Une des choses les plus difficiles, un des actes les plus courageux à faire pour un être humain, c'est faire face au vide qui est en nous sans utiliser d'artifice ou de quelque chose pour le calmer. C'est terrifiant le vide qui est en nous quand il n'y a plus rien. On est toujours à courir d'un projet à l'autre. Alors, peu importe que le projet soit chrétien ou pas chrétien, hein, d'une convoitise à une autre. Quand on dit convoitise, on pense toujours à des choses mal. Tromper sa femme, voler de l'argent. Mais une convoitise, c'est juste désirer quelque chose pour plus réfléchir au fait que je suis vide parce que Dieu n'est pas en moi. Alors, en période avant Noël, il y a les cadeaux, ça occupe, le repas préparé, dinde chapon, c'est terrible comme question. Est-ce qu'on va accompagner avec des marrons ou des pommes ou des prunes? Et puis, mais toutes ces choses-là, c'est ça la convoitise du monde. C'est juste toute l'agitation qu'on crée, qu'on entretient, qui fait d'ailleurs que l'économie de ce monde, elle va mal, mais enfin, tourne encore, hein. Parce que j'ai toujours envie d'autre chose pour pas faire face au vide qui est en moi. Et s'arrêter, refuser ces faux calmants, et puis dire je vais faire face à ce vide, et je vais laisser la nature de Dieu remplir ma vie, je connais rien de plus difficile. Il y a rien de plus violent. Quand Jésus dit le royaume de Dieu, c'est des violents qui s'en emparent, il pensait pas, comme on le dit souvent, aux boxeurs ou aux gens qui frappent ou qui sont durs. Il pensait à ça, pourquoi? Enfin, il pensait pas, il parlait de ça précisément. C'est extrêmement difficile. Et moi, je m'aperçois que, en plus, sans faire exprès, j'élève mes enfants comme ça. Ma fille est triste parce que son cousin est parti. C'est son meilleur ami. Elle va plus le voir pendant 3 mois. Et quelle est ma pensée immédiate? Demain, on ira acheter un nouveau petit jeu informatique. Écoute, je vais t'amener au restaurant. Je l'habitue à ce fonctionnement-là. Alors, je dis pas qu'il faut lui dire, pleure, c'est bien, il est parti. Non. Mais juste, je projette sur elle ma façon de faire. Quand je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai? Je pense à mon prochain livre qui va sortir, aux gens qui m'aiment bien, à ça, un prochain projet pour l'église, autre chose, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Alors, comme on est chrétien, on l'habille, hein. C'est, on pense pas à aller, voler la voisine, ou voler les poules du voisin, ou j'en sais rien. Ça, c'est le renard qui fait ça. Non. Mais c'est la même chose. Juste ne pas faire face au vide et dire à Dieu, viens le remplir. Trop difficile. Donc, à la place, chacun fait ce qu'il fait. Hein. On mange, on boit, on court, on bouge, on écoute de la musique, on lit des livres, on regarde des films, on appelle des gens, on parle mal des gens. Ça, c'est un tout qui remplit super bien. Parler mal des autres. On oublie vite que ça va pas. Hein. Se comparer aux autres. Je me sens déjà mieux. Hein. En trouver des plus minables que nous. Enfin, y a plein de choses comme ça, hein, selon nos tempéraments. Ou alors, faire plein de trucs. Hein. Faire. Mais je dois fuir cette chose-là et je dois intentionnellement viser à ajouter à ma foi. Et la discipline, elle s'opère là. Mais le but, c'est que tout ce que nous avons reçu par la connaissance de Dieu travaille en nous, ça va produire des choses et ça ne nous laissera pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez comment le cycle de vie, il est bouclé et il recommence. C'est que si j'ai laissé, je reprends mon exemple tout à l'heure, j'ai laissé Dieu infuser sa compassion en moi, je rencontre quelqu'un qui en a besoin et je ne peux pas l'éviter parce que maintenant c'est en moi, je la donne, mais une fois que je l'ai donnée, qu'est-ce qui se passe? Oui, je comprends mieux Dieu qui aime les gens qui n'aiment pas, etc. Mais surtout, j'ai de nouveau besoin de lui et je repars en haut. et puis il va me donner, et puis ça va me ramener à porter des fruits, à faire pour lui, et je suis vide, et je vais me re-remplir de lui, et puis je suis dans un cercle positif, vertueux, où je suis pas en train de supplier Dieu de rentrer dans mes projets, mais je le laisse entrer dans ma vie, et ça dirige mes projets. Et bien sûr, on va quand même faire des plans, fixer des dates pour le week-end d'église, pour si, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas parce qu'on planifiera rien qu'on sera plus rempli de Dieu, hein. Ce serait une illusion. On planifie les choses, mais on sait que c'est pas ces choses-là qui vont nous remplir, et puis c'est pas forcer Dieu dedans, mais c'est nous avec lui qui vont faire que ce qu'on va faire va pouvoir aller. Et lorsque je vis dans ces deux actions, fuir et ajouter, alors il se passe quelque chose de positif en moi. Et si je le fais pas, vous savez, le dernier verset, il est un peu dur, hein. Les deux derniers versets, 9 et 10, je termine avec ça. Celui à qui est le fond défaut, donc celui qui a pas, qui est dans ce processus-là, est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel. Quand je vis dans ce brouillard, c'est pas le fait que Dieu est fâché avec moi. Il m'aime pareil. Mais moi, je vis pour rien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on se réveille au bout d'une heure ou d'un mois ou de 15 jours à se dire, zut, j'ai existé mais j'ai pas vécu, hein, c'est terrible. Mais qu'est-ce que ça doit être d'arriver au bout de sa vie et d'un coup de se réveiller et de dire « Oh, j'ai rien fait. Ah oui, j'ai fait plein de choses, mais j'ai rien fait. J'ai pas vécu. J'ai pas... » Hein. Et il y a aucune condamnation de la part de Dieu. Il nous accepte comme on est, il n'y a pas de souci. Le point est pas là-dessus, quoi. C'est pas « Sentez-vous coupable et vous en ferez plus », surtout pas. Mais c'est juste de se dire le vrai trésor qu'on a pour cette année, encore une fois, c'est le temps qui nous est donné. Et ce temps, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le transforme en des choses qui ont du sens, de la valeur, en ajoutant à ma foi, en fuyant la fuite du vide? Ou est-ce que je me laisse emporter dans le pédaler dans la choucroute, comme on dit, pardon, hein, pour finalement me réveiller en me disant, oh, passe à côté, rien de plus. Alors, qui est suffisant pour ces choses? Personne, mais Dieu peut le faire pour nous. Seigneur, on te demande que tu nous aides à vivre intentionnellement. Déjà, donne-nous le courage de faire face au vide, à la peur, à nos craintes, à nos angoisses, à toutes ces choses-là qui font que on veut juste oublier, et on veut simplement s'anesthésier, et que nous puissions avoir la force, l'intelligence, le désir spirituel de venir à toi avec ce vide pour que tu le remplisses et que nous participions de ta nature divine, que nos vies se mélangent à la tienne et que ça nous amène là où tu voudras, Seigneur, à devenir responsables de choses que nous n'avons pas choisies, que nous n'avons peut-être pas voulu, mais que nous savons qu'elles sont de toi et pour lesquelles tu nous donneras tout ce qui est nécessaire par ta puissance divine. Merci de nous apprendre à comprendre ce processus, à l'expérimenter, à nous y encourager les uns les autres, à le vivre individuellement d'abord et en tant qu'assemblée, et à le partager autour de nous. Merci Seigneur pour ta provision, ta bénédiction qui enrichit, et pour tout ce que tu as prévu pour nous encore ensemble, et dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu.